Le grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui un artiste, un écrivain, un dessinateur, scénariste, créateur des revues de bande dessinée. Il est tout ça à la fois. Il s'appelle Assimba Bati. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Oui, merci.
Comment vous allez?
Oui, ça va bien.
Les affaires marchent bien?
Tout à fait, oui.
Alors, avec vous, dans notre entretien, on parlera de votre parcours ou de votre carrière dans la bande dessinée. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dedans. C'est pas facile. C'est toute une vie, ça. Plus de 30 ans.
Toute une vie, j'allais dire, dedans.
Vous vous sentez bien dans ce que vous faites?
Non, parler comme ça, ce ne sera pas bien. Il y a eu d'abord un premier pas, c'est-à-dire un commencement quelque part, et puis un cheminement, et puis... La résistance, il faut parler comme ça.
Il y a eu des hauts et des bas.
On va en
parler. On va en parler dans cette émission. On va commencer par une brève biographie de votre personne. Vous êtes né en 1956.
Je suis né un jour quelque part, mais au Congo.
Ah ouais, dans la province orientale. Oui. C'est pas un secret, non?
Non, mais puisque vous dites déjà sur les antennes, je suis né à Ouattara et dans la province orientale, ma province d'origine.
Oui, et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance.
Non, non, mon père a fait tous les Congos en mutation. Moi, je suis né au nord et j'ai des frères et des sœurs qui sont nés dans tous les points presque pratiquement de la République. Moi, j'étais bébé, j'ai pas vu tout ça. Quand on est revenu ici à Kisangani, j'ai commencé à comprendre la vie et j'ai commencé.
Alors, faisait quoi votre père pour tout le temps bouger comme ça d'une province à une autre?
Il a travaillé à la poste de mon père. Et il a été à Yangambi, il a été dans le Bas-Congo où il a fait ses études à Kimpese. Et c'est là où il a croisé ma mère, infirmière de formation, pasteur de formation, mon père aussi. Bas-Congo, ils se sont mariés, ils sont repartis à la province orientale. Et puis ils ont bougé un peu partout dans le Congo. Comme M. Larousse, il a semé des enfants dans chaque point de la République, mais avec ma mère.
Ah, d'accord,
ah oui, ah, non, 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 avec ma mère.
Heureusement.
Donc voilà quoi. Ouais.
Et donc vous arrivez à Kinshasa à l'âge de 10 ans avec vos parents.
Oui, mais je ne suis pas arrivé facilement comme ça. Il y a eu la guerre de la rébellion de Moulélé avec mes parents. On est allé dans la forêt. Moi j'avais 8 ans. Et je suis pas l'aîné, je suis le cinquième. Deux ans et demi dans la brousse, on a connu
c'est pas facile à 8
pas
ans.
Pas facile, vous voyez, un parent comme ça, qui traîne mal 11 enfants dans la brousse. Deux ans et demi à la merci de la nature, des intempéries. On a eu beaucoup de chance, on est sorti sain, sauf, on est arrivé à Kinshasa en 1966. Depuis, je suis resté.
Et c'est quelque chose qui vous a marqué dans votre vie
J'ai écrit un livre sur ça quand même finalement. Le livre est fini, 250 pages. Je relate ce que moi j'ai connu pendant cette rébellion, ce que nous avons connu dans la forêt, deux ans et demi avec mes parents, ce qu'on a vécu là-bas. Je rends quand même mon témoignage centré sur ma famille évidemment, sous forme d'un roman, mais témoignage de ma vie autobiographique.
Déjà sur le marché ou
non,
bien?
Non. J'ai cherché un éditeur. Il y a quelqu'un qui voulait prendre. Bon, on est encore en décision. Et donc voilà quoi. Là, je suis sur l'écriture d'un deuxième. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée. C'est juste un roman fiction, un témoignage. Un roman fiction. Donc voilà, je suis un peu dans l'écriture.
Mmh. Et lorsque vous arrivez à Kinshasa à l'âge de 10 ans, c'était quoi vos premières impressions? Vous êtes tombé amoureux de Kinshasa?
Non, je suis arrivé dans une ville comme dans une autre. J'étais amoureux de Kisangani, où j'ai vécu quand même, où j'ai fait mes études primaires, les débuts. Et puis à Kinshasa aussitôt, je suis inscrit à Bandal, dans une école primaire à Bandal. Et c'était bien pour moi parce que le jour où je suis arrivé, on m'a présenté à l'école par la femme de mon oncle, un homme de mon oncle qui est décédé. Et au bureau du monsieur le directeur, il y a un instituteur qui est arrivé chercher les crayons. On lui a dit justement, il y a un élève ici qui vient de Kisangani et tout ça. On a demandé mes bulletins, je n'en avais pas déjà, on n'avait rien. Il m'a pris avec lui, on est dans la salle de classe. Qu'est-ce que je trouve au tableau? Il est en train d'enseigner un système métrique. Ce que j'ai vu, c'était pas la meilleure voie pour moi. J'ai compris tout de suite et la classe ne comprenait pas. Et il m'a pris tout de suite. Il dit, est-ce que tu peux résoudre ce qui est sur le tableau là? Il a introduit la matière. Il n'avait pas de crayon. Il est allé chercher au bureau. Et moi, j'arrive. J'ai résolu les problèmes qu'il a mis au tableau. Il était étonné. Toute la classe était étonnée.
Est-ce que vous voulez nous dire que vous êtes un garçon ou vous étiez un élève intelligent?
C'est pas sorti de ma bouche, heureusement, mais c'est ça quoi.
Donc, directement, c'est sorti de votre bouche.
Non. Moi, j'ai confirmé ce que vous avez dit. Et c'est, ça s'est vérifié. Parce que, aussitôt arrivé, j'ai étonné la classe. Et du coup, j'étais considéré. Et le même jour, j'étais fait chef de classe. Je n'avais même pas encore des bancs où m'asseoir, mais chef de classe déjà, dès que j'ai mis pied dans la salle. Et c'était parti comme ça.
Vous êtes arrivé à résoudre l'équation qui était
au tableau. Oui, c'était un test pour voir ce que j'ai valé.
Votre niveau.
Oui, mais je crois que j'ai valé un peu plus que ce que j'ai trouvé dans cette classe. Okay. La preuve est que j'ai tout mon parcours primaire, j'étais premier de classe. Et j'ai retrouvé mon bulletin de 6e année primaire comme par hasard. J'ai fait 99% 6e année primaire pour avoir mon brevet. Donc voilà un peu quoi, pour dire que je suis quand même pas tombé comme ça à l'école primaire et j'avais un cerveau qui fonctionnait très bien et qui fonctionne encore très bien jusqu'à aujourd'hui quoi.
Ah, ça se voit. Alors on a fait des humanités scientifiques.
Oui, à Tende à Gombe et je suis arrivé là-bas et ça s'est passé comme ça s'est passé, mais c'était très bien.
Quelle option, maths physique,
maths physique
ou chimie?
Maths physique et ça s'est passé bien et jusqu'à la fin. Et puis bon voilà, je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts pas dedans complètement. J'étais candidat libre. C'est-à-dire que j'ai venu pour des ateliers.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'Académie des Beaux-Arts?
Bon, c'était pas vraiment un choix parce que déjà à l'Académie de la Gombe, à un moment, en 4e année des humanités, le préfet des études, M. Mernout, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est un Belge, il a convoqué mon père. Il voulait m'envoyer à l'Académie des Beaux-Arts. Mon père, il n'aimait pas que je dessine. Moi, j'ai caché l'information, j'ai donné à ma mère est arrivée, on l'a convaincue, j'ai changé d'école. Moi, j'ai refusé parce que je voulais pas dessiner. J'ai dessiné, c'est vrai, mais c'était pour narguer le monde. Et ma mère a dit oui, et moi, j'ai dit non, et on s'est discuté fort. Et le directeur a dit, écoute, moi, je vais supporter ces frais d'études jusqu'à la fin. Donc, je le déplace. Moi, j'ai dit pas question, je ne pars pas. Bon, comme punition, on m'a renvoyé à la maison pendant une semaine. On m'a demandé de dessiner tous les savants qui sont dans le livre de chimie, Lavoisier, Proust et tous les autres. Et j'ai fait des grands portées sur le papier A1, A0 si vous voulez, des grands papiers, au crayon. J'ai me caché, quand mon père sort pour aller au travail, moi je dessine, quand il revient, je cache mes papiers parce qu'il ne voulait pas que je dessine. Alors les dessins croyaient que j'allais me planter. J'allais perdre un mois, deux mois, et puis finalement on me renvoie et puis on me transfère. En une semaine, je lui ai envoyé 10 portraits, je lui ai amené 10 portraits. Il était coincé, il savait plus rien faire. Et on a mis ça dans la salle de chimie. Je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui à l'Académie de la Gombe. Il était coincé et il m'a accepté.
Si je comprends bien, vous avez commencé vos études humanitaires en scientifique.
Oui.
Mais le directeur vous a proposé de faire plutôt l'Académie des Beaux-Arts.
Parce que dans mes cahiers, à la fin, j'ai fait des séries de bandes dessinées. Et en classe, évidemment, j'ai dessiné le prof à tout moment et j'ai été attrapé plusieurs fois. On m'a amené à la direction.
Et ça me plaît. Finalement, vous avez fait quand même l'Académie des Beaux-Arts.
Non, parce que je suis allé de moi-même à un moment. Pourquoi? Parce que j'ai été accroché par quelqu'un qui faisait la sérigraphie, les impressions sur tissu. J'ai découvert la technique. J'ai fait beaucoup de motifs pour lui, on a cheminé et puis il y a deux professeurs de l'Académie des Beaux-Arts qui venaient chez lui, ils ont souhaité à ce que j'aille à l'Académie, moi je voulais pas. Du fait qu'on s'était familiarisé avec ces profs-là, je suis allé à l'atelier de prof Niati comme candidat libre. Arrivé là-bas, il a vu mes dessins, moi je suis allé finalement parce que je me suis dit, j'apprends la bande dessinée de manière classique à l'Académie des Beaux-Arts. J'arrive là-bas, j'ai monté mes planches à l'époque, j'ai venu de commencer mon stage à Jeune pour Jeune, et en attendant Jeune pour Jeune, c'était
un magazine pour
jeunes. Oui, c'est un magazine de bande dessinée, ouais. Le tout premier magazine de bande dessinée au Congo, et moi je suis arrivé plus tard comme stagiaire. Le matin, j'ai passé à l'Académie des Beaux-Arts parce que j'ai commencé mon stage à 11h, et je sors mes planches, et le prof était étonné. Il m'a dit une phrase qui m'a fait fuir l'Académie. Il m'a dit, oh, c'est toi qui fais ça? J'ai dit oui, depuis toujours. Moi, j'ai dit oui. Est-ce que tu peux m'apprendre à faire la bande dessinée? Mon Dieu, quoi. J'ai dit, je viens de faire quoi ici, moi? La personne qui est censée m'enseigner, il me demande de lui enseigner comment faire la bande dessinée. Bon, j'ai bégayé. À 11h, quand je suis parti, c'était terminé. Je ne suis plus jamais revenu, quoi. Parce que je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas. Mais il s'est fait que, à ce moment-là, ces petits moments-là que j'ai passé à l'Académie, j'étais connu. Et les étudiants venaient à la maison parce qu'ils avaient des TP, ils avaient des soirs à faire. Ils venaient faire ça chez moi. Il y en a qui voulaient payer. Moi, je voulais pas. C'était un plaisir pour moi de voir ceux qui font, ceux qui apprennent les dessins à l'école, qui viennent chez moi au niveau supérieur pour que je dessine pour eux. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir.
Vous avez fait un bref passage à l'Académie?
Non, je suis allé faire un clin d'œil à l'Académie plutôt.
Un clin d'œil? Mais est-ce que vous avez obtenu votre votre diplôme diplôme d'État?
Oui. Et puis, mais à l'académie, pas de diplôme parce que j'ai l'impression qu'en matière de dessin, j'ai plus qu'un diplôme moi-même, quoi.
Tout jeune déjà, vous a donné déjà au dessin. Quand vous étiez petit, ça vous a fait dessiner ou bien ce goût-là est arrivé en grandissant?
Non, je suis né avec, je crois. Et au fur et à mesure que j'ai grandissé, les talents aussi grandissaient, je crois.
Quel est le souvenir que vous a le plus marqué pendant votre enfance, hormis le fait que vous ayez passé 2 ans et demi dans la forêt en train de fuir la rébellion mouliniste?
Les souvenirs, avoir eu un père formidable et une mère qui est amour. C'est ça qui va marquer toute ma vie. Ils sont plus là, dommage, bon, c'est la vie, père l'air un. Mais c'est ça mon meilleur souvenir, quoi.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Assimba Bati?
Qu'est-ce que je n'aime pas?
Dans la vie?
C'est difficile à dire, sinon les traîtres, les méchants, les hypocrites. Mais les personnes qui me trahissent, moi je les accepte, je les aime.
En espérant qu'ils vont se corriger. Et vous n'êtes jamais arrivé de trahir quelqu'un?
Moi, par inconscience peut-être, mais de moi-même trahir, je vois pas pourquoi je vais le faire.
C'est quoi votre plat préféré?
Oh là là, on dit qu'il est invité ce soir partout. Je mange la nourriture, voilà.
Oui, mais vous n'avez pas de préférence? Vous mangez tout ce qui se présente devant vous?
Non. Et à table, je suis un peu capricieux. Des fois, quand je regarde que ça va pas, c'est pas de mon goût, je mange pas et je résiste et je mange pas, c'est tout. Mon plat préféré, c'est du pondou. Pondou principalement, quoi, avec du riz. Hein.
Et du poisson?
Oui, des poissons aussi, hein, c'est la chair préférée pour moi, quoi.
Sportif?
Oui, je me suis essayé en boxe, je me suis essayé en karaté, et puis à l'école à la Tienne de la Gombe, j'étais athlète, et champion interscolaire pendant plusieurs années, lancement de poids, lancement de javelot. J'ai fait les sauts à hauteur, les sauts à longueur, et j'ai couru les 100 mètres plats, et j'ai fait tout ça.
Et actuellement, qu'est-ce que vous faites?
Je dessine.
C'est pas un sport, ça dessine.
Eh mon Dieu, ça demande l'énergie, du muscle et tout ça. Bon, j'ai fait le footing les matins pour être en forme. Pas tout le temps, quand j'ai le temps, je cours. Sinon, je marche beaucoup à pied pour garder la forme.
Lorsque vous n'êtes pas plongé dans vos dessins, comment vous passez vos moments de détente?
Moi, les détentes, je suis pas un bon exemple. Un bon exemple parce que pas de détente presque. Moi, si je n'écris, si je ne dessine pas, je lis. Si je ne lis pas, je suis devant mon ordinateur, je fais le design. Sinon, j'écris. Un casanier, quoi. Si rarement dehors, presque pas d'amis, presque pas, quoi.
Vous aimez la solitude?
Je crois que c'est bon pour l'inspiration. On travaille à fond, oui. C'est ça, quoi.
Tout le temps seul et ça vous inspire. Est-ce que vous ne vous inspirez pas aussi de ce qui se passe autour de vous?
Autour de moi, j'ai parlé de lectif tout de suite, j'ai lu beaucoup. Et, oui, les gens, on voit ce qui se passe à travers le monde, on voit ce qui se passe autour de soi. Et on
mais
s'inspire.
Sortir, vivre ça personnellement, pas se contenter de ce qu'on écrit dans les romans ou dans les livres.
J'ai dit que je marche pourquoi à pied? En marchant à pied, je vois des choses, je croise des gens, et je vois ce qui se passe autour de moi, j'observe. Et, en tant que journaliste aussi, j'ai un œil critique pour voir, pour recouper.
Oui, en passant, vous êtes journaliste aussi.
Oui. Donc j'observe beaucoup, je recoupe ce que je vois et puis je retiens ce que j'ai à retenir.
Est-ce que ça vous inspire aussi pour vos bandes dessinées?
Beaucoup d'éléments et comme ça en réserve. Évidemment, je vais trier avant d'écrire un scénario. Et je dois traiter aussi mes éléments d'information. Donc voilà, pour sortir pour la détente, ce n'est pas fréquent, c'est pas un dada. Pour un gars qui boit pas et qui ne fume pas, qui ne danse pas, qui ne sait pas danser, hein, qui aime la musique bien sûr.
Voilà, donc, qui aime la musique, quel genre de musique?
Donc, je suis la musique gospel, c'est ça ma musique que j'aime, la musique que j'aime.
Et à part le gospel, vous n'écoutez pas
d'autres
musiques?
J'ai écouté d'autres musiques avant, j'ai énormément écouté cette musique-là avant. Et puis, il est arrivé un jour, j'ai dit, ben, c'est du gospel. Bon, je peux choisir, comme c'est encore frais, comme l'émotion est là, je peux choisir la musique de Kester Emenia, que j'ai connu personnellement et que j'ai fréquenté beaucoup, j'ai beaucoup écrit sur lui, j'ai été le premier témoin de la création de son groupe Victor Ellison. J'ai accompagné ces groupes avec mes écrits dans la presse. On était vraiment amis. Bon, voilà, il vient de partir. En sa mémoire, si on peut passer une chanson d'Emilia, ça ne me fera pas de mal.
N'importe laquelle,
pourvu que ce soit Emilia et son groupe.
Alors, on va demander à Jean-Noël Mokondo, qui est de l'autre côté de la technique, de nous proposer une chanson de King Kester Emilia, pour votre plaisir et pour le plaisir de toutes les personnes qui aiment cette musique. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien. Mmh.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui à Simba Bati. Il est écrivain, il est dessinateur, scénariste et créateur des revues de bande dessinée congolaise, hein, il faut préciser.
Non, moi j'aime pas qu'on parle de bande dessinée. La bande dessinée, c'est un langage universel. C'est la bande dessinée. L'auteur, il peut être congolais, mais si je tombe sur un scénario, une histoire qui se passe par exemple en Chine, j'ai déjà dessiné les Chinois. Et ça se passe chez eux. Moi, je suis ici. J'ai une bonne documentation. Et la personne qui lit cette bande dessinée qui se passe en Chine, dans laquelle on a dessiné que les Chinois, est-ce qu'il va dire l'auteur, il est de quelle nationalité? À ce moment-là, la bande dessinée.
Mais dans la plupart de vos bandes dessinées, c'est plutôt des histoires de réalités congolaises, non?
Mais non. Quand on fait du local, on fait du local. Ma BD qui vient de sortir, malheureusement, je passe ça ici avec moi. Ma BD qui vient de sortir, je vais vous offrir quand ça va arriver. Ma BD qui vient de sortir, Panique à Kinshasa. Ça commence à Kinshasa, mais il y a un clé d'œil, c'est Bruxelles. Et on voit les rues de Bruxelles à Matongé. On voit Bruxelles à un certain moment. Et... Donc c'est pas que Kinshasa, parce que je suis congolais. Je peux faire une histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se passe en Chine avec les Chinois. Je dessine des Chinois dans leur ville, tout ça. Mais on dira pas que c'est une BD congolaise. L'auteur est congolais. Mais le récit n'est pas congolais. Donc la BD, c'est un langage universel. Comme quelqu'un qui écrit un roman, on dit non, c'est un écrivain congolais qui écrit des romans congolais. C'est quoi les romans congolais? Si un Belge écrit quelque chose qui se passe au Congo, c'est quoi cet ouvrage-là?
Alors vous préférez qu'on parle de bande dessinée tout court?
Bande dessinée tout court, c'est un langage universel, oui.
Je disais tout à l'heure que vous avez plus de 30 ans dans ce métier. Le début a toujours été difficile. Oui. Racontez-nous un peu la petite histoire. Vous m'aviez dit tout à l'heure que quand vous étiez aux humanités, c'était pas votre truc, quoi. Oui. Les bandes dessinées ou les dessins, c'était pas votre truc. Mais comment finalement après vous vous êtes retrouvé dedans et on vous retrouve encore dedans aujourd'hui?
Bon, c'était la routine au départ pour moi. J'ai dessiné pour narguer mon monde, comme j'ai dit. Je voulais pas faire une profession. Mon père voulait que je devienne médecin et moi-même je voulais devenir médecin, c'est vrai. À un moment, je voulais être pilote de ligne. Et puis, j'ai passé des examens à l'époque de Mobutu. Il a commandé des avions qu'on appelait Sugisa. J'ai passé des examens, j'ai réussi. Je devais partir en Italie pour faire la formation. Finalement, je me suis dit, tiens, ben, je dois rentrer à l'école. Je ne suis pas parti, je ne suis pas devenu pilote. Finalement...
Comme ça, parce que vous vous êtes dit que vous devriez retourner à l'école, vous avez décidé d'abandonner ce projet-là de devenir pilote?
J'ai passé les examens pour devenir pilote de chasse, j'ai réussi. Hein. Et puis à un moment, j'ai réfléchi et j'ai dit non. J'ai continué mes études, je voulais devenir quelqu'un, je ne savais pas exactement qui. Mon père voulait que je devienne médecin, moi-même je voulais devenir pilote.
Donc vous-même, vous et ne saviez pas ce que vous vouliez devenir?
Le problème, c'est qu'il fallait avoir ces documents-là qu'on appelle diplôme, quoi. Je suis rentré à l'école. Donc, les dessins, finalement, ça m'a rattrapé un jour, parce que c'est dans le sang, ça circule, ça bouillonne. Et je me suis échappé pendant des années, comme je l'ai dit dans la presse écrite. Je suis resté là longtemps, et voilà, un jour, j'ai dit, bon, c'est terminé, je n'écris plus, sinon pour mon plaisir, je dessine. J'ai commencé à dessiner. Sérieusement, maintenant, c'est difficile, c'était très difficile.
Vous avez commencé à faire la caricature, collaborer avec certains journaux?
Bon, la caricature, c'était aussi, comme on dit, une fuite en avant. Il n'y avait pas d'espace d'expression ici, parce qu'après jeune pour jeune, il n'y avait plus rien, on ne pouvait plus dessiner, on ne pouvait pas le magazine de bande dessinée. En tout temps, j'étais sollicité dans des journaux pour faire des caricatures. J'ai fait la caricature politique à la fois, j'écrivais aussi dans certains journaux, j'étais rédacteur en chef de plusieurs journaux, j'étais secrétaire de rédaction et j'ai fait des reportages à gauche et à droite. C'était ça la caricature, c'était une fuite en avant, je voulais vraiment pas, quoi. Bon, il fallait pas perdre la main, j'ai fait, mais j'ai signé par des faux noms parce que je voulais pas émerger comme caricaturiste des presse. Un jour, il y a eu c'était, je crois, les derniers congrès de la presse sous le régime Mobutu, c'était au Grand Hôtel. Je me suis retrouvé là-bas. Moi, j'étais pas programmé parmi les intervenants. J'ai demandé quand même au bureau. C'était le professeur Moulopou. Il est mort aussi, personnel. Mon Dieu, tout le monde est mort autour de moi, quoi. Et j'ai dit, écoutez, moi, je vais dire quelque chose. Il dit, non, on a déjà arrêté le nombre d'intervenants. J'ai dit, je vais dire quand même que je te dis, bon, une minute pour toi. Moi, j'ai dit, c'est vraiment moins d'une minute. Et là, j'ai intervenu, j'ai dit, parce que les caricaturistes dans la presse écrite, c'est juste des dessinateurs, c'est des sous-hommes qui ne sont pas considérés. Ils viennent juste pour remplir la page et puis ils disparaissent. Mais moi, je ne comprends pas. Un dessinateur de presse, il fait un petit dessin, il peut ne pas mettre les textes. Même la personne qui ne sait pas lire, en regardant les dessins, il peut comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai dit, mais cet homme-là, il est plus intelligent que ceux qui écrivent. Pourquoi? On peut remplir une page de journal avec des textes, sans illustration. Et quelqu'un qui lit cette grisaille-là jusqu'à la fin... Il s'énerve en plein milieu et puis à la fin il comprend rien. Mais il suffit d'un petit dessin, on a toute l'information clairement. Pourquoi ces gens ne sont pas considérés? Il ne monte jamais un grade, il est juste caricaturiste. Il n'est même pas chef de rubrique. J'ai dit c'est pas normal. Du coup, j'ai proposé qu'on ne les appelle plus caricaturistes parce que ça devenait péjoratif, mais dessinateurs de presse. Et du coup, j'ai proposé de regrouper les caricaturistes au sein de ce que j'ai appelé ADEP, Association des dessinateurs de presse. Aujourd'hui, c'est Mike Maloge qui dirige, Il a reçu un prix de l'IMA, j'ai vu, et j'ai dit félicitations à lui. Donc voilà, j'ai fait cette démarche qui a abouti, et à partir de ce moment-là, on a considéré ces caricaturistes comme des destinataires de presse, et ils avaient droit désormais à une carte de presse.
Et donc c'est une idée qui est venue de vous.
Oui, ben j'ai
vous avez poussé les patrons de presse à considérer ces gens-là, alors donner une carte de presse, à les considérer comme des journalistes.
Des sous-hommes, c'était des sous-hommes qui venaient juste remplir un espace comme ça, et on ne considérait pas, mais voilà comment on a donné la carte de presse au destinataire de presse, qu'on a cessé, entre parenthèses, d'appeler caricaturiste parce que ça devenait péjoratif.
Mais est-ce que vous continuez à faire ces dessins de presse, la caricature?
Non, j'ai arrêté depuis longtemps, c'était juste pour me défouler. J'ai dit que c'était une fouille en avant parce qu'il n'y avait pas d'espace d'expression. Et depuis, j'ai créé des magazines pour m'exprimer moi-même. Et j'ai fait exprimer d'autres.
Vous avez créé des magazines ou vous avez d'abord commencé par collaborer dans des magazines
Oui, hein, un tout petit peu, en 1980. J'ai initié, j'ai donné l'idée. Et puis j'ai animé, j'ai fait venir les dessinateurs, on a démarré. Et puis bon, à un moment, ça n'a pas continué, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai créé un tout premier magazine que j'ai appelé Rasta Magazine. Rasta simplement parce qu'à l'époque des reggae, c'était à la mode, les dreadlocks, et les reggae, c'était la danse à la mode. J'ai appelé ce magazine-là Rasta. C'est pas parce que tout le monde devait se mettre en dreadlocks ou je devais dessiner des dreads. Non, Rasta pour moi signifiait jeune. C'était un courant. Et j'ai appelé ça Rasta Magazine. J'ai fait des éditions que j'ai financées de moi-même. Et puis j'ai pas continué.
Vous avez arrêté? Pourquoi?
Non, j'étais déjà en pleine rédaction dans un magazine. J'étais rédacteur en chef.
Ça devenait compliqué pour vous. Voilà, justement, de concilier les deux.
Oui, j'étais beaucoup sur le terrain pour les reportages et ça faisait beaucoup de temps. Je suis revenu tout de suite. C'était plus Rasta Magazine plus tard. J'ai créé un autre magazine que j'appelle Les Numéros 1. Et pourquoi Les Numéros 1? Et on doit avoir des ambitions. Et j'ai dit, je suis le numéro 1 de la bande dessinée au Congo et j'ai appelé mon magazine Les Numéros 1. Et à la première édition des Numéros 1, j'ai eu la chance de croiser une fille, Fichou Mukuna, la toute première affaire de la BD au Congo. J'ai publié ses toutes premières planches. J'en suis fier. Parce qu'elle évolue aujourd'hui, elle est allée trop loin. C'est une fierté.
Dans la bande dessinée.
Ah oui, il vient de sortir son premier album de BD. J'ai le croisé à Tourcoing en France dernièrement.
Et alors vous dites que vous êtes numéro 1 de la BD en RDC. Avant vous, on a connu des grands dessinateurs aussi.
L'histoire de la bande dessinée a été tronquée plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que je ne suis pas le premier dessinateur congolais, j'ai en 13e position. Il y en a eu qui était là avant moi, mais en arrivant, moi j'ai des ambitions, j'ai des idées. J'ai dit, je suis le numéro 1. Qui dit le numéro 1, je dis entre parenthèses des plus grands. Et c'est pas fou. Bon voilà, et au départ, c'était Denis Boyan.
Oui.
Qui a créé les personnages d'Apollo Sa, Kikwata, Coco et Didi pour les enfants. C'était lui le tout premier. Et puis, il y a eu.
On va pas citer tous ces gens-là.
Trois personnes importantes.
Oui, allez-y.
Trois. Et Yahi, Lepa, on l'a connu un moment avec Joe F et tout ça, Sima Lukombo. Tout ça, c'est un beau jeune. Mais il y a un quatrième, quand je m'arrête là, c'est Mongo Sissé, Matamata et Pili Pili. Ça, ce sont les précurseurs de la bande dessinée au Congo. Et depuis que je suis là, et je travaille, là, j'ai réuni les artistes en 2007. Parce qu'il y en a qui sont partis pour des raisons, ils étaient tous cache-cassistes dans la presse, il y en a qui ont été bastonnés pour une raison ou pour une autre, et puis finalement, ils sont partis. Ce côté, c'est le bout du doigt. Et en 2007, je rencontre des jeunes dessinateurs. J'ai dit, tiens, ben, pourquoi je ne mettrais pas ces gens ensemble? En 2007, j'ai créé l'association BD Kinabel. Mais avant ça, il y a eu OAR, il y avait plein de trucs. J'ai regroupé ces auteurs autour de Kinabel. Et on est arrivé à donner l'espace d'inspiration à 57 dessinateurs. De Kinshasa, des provinces comme de la diaspora occidentale. 57 auteurs qui ont publié sous ma bannière, sous ma direction. Donc voilà, on a fait le magazine Kinabel, on a fait, jusqu'aujourd'hui, on a 21 numéros sur les marchés.
21 numéros 21. Qui sont presque invisibles, puisqu'on
non,
les voit à peine.
Les rayons, des distributions est tout petit, on va dans les écoles, et puis à un moment, on n'a pas de distributeur parce que c'est entre artistes. Quand on a fini de dessiner, on est fatigué, il faut faire la suite, il faut raser encore la ville de Kinshasa pour aller faire la promo, tout ça.
Est-ce que vous avez envie de vous faire connaître ou pas?
On a envie.
Ben oui, mais pourquoi vous, le rayon des distributions est,
il faut
vraiment, tout petit, là.
Parce que les problèmes aussi, c'est quoi? J'ai fait un commentaire arrière. Au congrès, à ce congrès-là de la presse, d'Isaïe. Déjà, à l'époque, on commençait à vendre des journaux en photocopie. C'était devenu sérieux. Moi, j'ai posé le problème. Pendant la pause, il y a un éditeur, je ne cite pas son nom, sérieux, qui me dit, Simba, laisse tomber tes idées. Moi, j'encourage ces jeunes-là qui vendent les journaux en photocopie parce qu'ils se débrouillent au lieu d'aller voler. Et quand ils prennent les journaux, ils tirent en copie, ils vendent ça à 10 fois moins cher. Les soirs, ils ramènent les invendus. Comment vous allez faire pour payer les journalistes? Comment vous allez faire pour payer les loyers au cas où vous n'avez pas les bâtiments à vous? Comment vous allez faire pour acheter les intrants pour rentrer à l'imprimerie? Il dit à Simba, laisse tomber ces jeunes-là, moi, je les encourage. Au contraire, quand je vois ça, je leur donne encore des journaux pour qu'ils tirent en copie, qu'ils vendent. Un éditeur survit qui me parle comme ça. Il m'a choqué.
Qu'ils c'est quoi, vous avez eu peur, vous êtes dit aussi qu'on pouvait photocopier vos numéros, les bandes dessinées.
On a monté une stratégie de proximité, on le fait à notre façon. Parce qu'il ne faut pas qu'on vende la photocopie. On a développé une politique à nous, de proximité, pour essayer de vendre notre magazine. C'est lourd, c'est dur, c'est vrai, mais on le fait quand même.
Plus de 30 ans dans la bande dessinée, est-ce que vous vous retrouvez financièrement, je veux dire.
Financièrement, j'ai dit ceci. Bon, il n'y a pas de parcours sans écueil. Il y a des difficultés partout. Il n'y a pas une grande œuvre sans difficulté. Si on vient dans la bande dessinée pour du temps, celui-là, il a réussi, moi, je viens, je vais réussir tout de suite, autant ne pas venir, quoi. Même dans n'importe quel domaine de la vie, quoi. Donc, il y a des difficultés, mais il faut braver ces difficultés-là. Il faut avoir la détermination d'arriver au bout de ce qu'on fait. Sinon, ça sert à rien. Même ce que nous faisons aujourd'hui, même la visibilité qu'on a aujourd'hui, mais il y a toutes difficultés, il y a des difficultés tout autour. Moi, j'ai dit tout à l'heure, on a donné l'occasion à des dessinateurs, plus de 50 dessinateurs, de s'exprimer. On a donné l'occasion à ces dessinateurs-là de voyager à travers le monde, dans des festivals, dans des grands festivals. On n'a jamais fait ça avant, jusqu'à notre avènement. Là, je reviens encore sur les faits que j'ai dit, je suis le numéro 1, et j'ai regroupé les artistes. J'ai donné l'occasion à plus de 50 personnes de s'exprimer, à certains de sortir, d'aller dans les festivals à travers le monde. Et on est allé plus loin. J'ai donné l'occasion à des artistes de se regrouper pour faire des albums cartonnés. Quand on dit album cartonné.
Vous avez créé de l'emploi.
Oui, en quelque sorte. J'ai donné l'occasion aux Congolais de se regrouper pour sortir une BD comme ça. C'était d'abord.
Avec quel moyen?
Non. Vous êtes financé ou on se regroupe. On cherche un financier et qui accepte de soutenir le projet financièrement et ça sort. Et dès que l'album est sorti, les artistes vont dans des festivals en Afrique et dans le monde. C'est le Congo qui va être présenté dehors, c'est le Congo qui présente de quoi il est capable, c'est le Congo qui est rayonné dehors par rapport à ce que nous faisons. Et on a fait ça une fois, deux fois, trois fois. Il y a un album qui va sortir à la fin de cette année, encore collectif, avec les membres de mon équipe. Mais cette année, moi je me suis dit, pourquoi je n'irai pas encore beaucoup plus loin. Je viens de sortir ma BD à moi tout seul, je l'ai financé moi-même évidemment. C'est sorti au mois de février en Belgique.
Panique à Kinshasa.
J'ai fait la promo, j'attends le grand loup qui ne vient toujours pas, qui est coincé dans le bateau quelque part. Mais ça finit par arriver un jour, donc j'attends vraiment les doigts croisés. Donc voilà, je suis allé encore un peu plus loin pour faire l'édition professionnelle de la bande dessinée, en résidant au Congo, pour que ceux qui sont dans la BD croient à ce qu'ils font.
Est-ce que surtout vous encouragez les jeunes, ceux qui ont ces talents-là de pouvoir dessiner, vous les encouragez aujourd'hui à se lancer, à se focaliser sur la bande dessinée, faire partie d'une association des BDistes congolais?
Je suis moi-même formateur dans le domaine de la bande dessinée, je l'ai fait ici, je l'ai fait un peu partout dans le monde. Donc
vous les encouragez?
Mais c'est ça justement.
Malgré le fait qu'on dise que ça nourrit pas l'artiste, la bande dessinée.
Non, c'est pas ça quoi. Je ne pense pas qu'un cultivateur à qui on a donné un espace. Dès les premiers coups de pioche, il commence à manger le maïs, il commence à manger, c'est pas moi quoi. Non, mais il doit d'abord sarcler, raser, et puis retourner la terre, mettre les grains, et arroser, et entretenir. Et puis finalement, s'il a mal fait, il n'aura pas de récolte. S'il a bien fait, il va avoir la récolte après. Mais avant, il faut préparer le terrain. Je ne dis pas que quand il vient à la bande dessinée tout de suite, t'achètes une voiture, t'achètes une maison, t'as de l'argent, t'es devenu. Non, c'est pas ça, quoi.
Mais d'abord, c'est quoi votre objectif, vous consacrant, vous lançant comme ça dans la bande dessinée? Qu'est-ce que ça rapporte à la jeunesse aujourd'hui? C'est vrai qu'à un certain moment, les jeunes étaient vraiment accros de la bande dessinée. Pas seulement les jeunes, même les adultes lisaient beaucoup. Mais actuellement, c'est à peine 20 ou 30% des jeunes qui ont encore ce temps-là de lire les bandes dessinées.
Encourager les jeunes à venir dans la bande dessinée, j'ai dit, il faut le faire parce qu'ils doivent avoir un métier. Et dire aux jeunes que voilà, ça nourrit pas son homme, ça nourrit son homme, j'ai dit, c'est dangereux. Il faut pas dire aux jeunes qu'ils ont, venez là-bas, vous allez devenir des millionnaires, c'est fabriquer des fainéants, quoi, qui vont pas faire travailler leur cerveau. La bande dessinée, on ne dit pas que ça nourrit pas son homme, on ne dit pas que ça nourrit son homme, il faut travailler. Il faut vraiment travailler, tracer son chemin pour s'imposer aussi là-dedans pour avoir des retombées positives. Les jeunes ne lisent pas, je dis pas oui, hein. Mais le problème, c'est l'école. On forme qui à l'école? Dans nos écoles ici, est-ce qu'il y a une bibliothèque? Est-ce que les enfants d'aujourd'hui vont dans la bibliothèque à l'école? Est-ce que les week-ends, on leur donne des bouquins à lire pour venir faire la restitution la semaine qui va suivre, est-ce que ça existe encore aujourd'hui, l'initiation à la lecture? Ça n'existait pas.
Pourquoi selon vous?
La négligence. Mais est-ce que ça doit continuer? Est-ce que ça doit être la fierté des Congolais de dire que voilà, les Congolais ne lisent pas, dans les écoles il n'y a pas de bibliothèque, et puis on ne donne pas les livres? Et puis pourquoi? J'ai dit pourquoi on continue à distribuer les diplômes à des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas s'exprimer correctement, qui ne savent même pas écrire? Pourquoi on continue à distribuer des diplômes à ces gens-là? On doit arrêter. On doit refaire et revisiter l'enseignement aujourd'hui. Parce qu'on doit former des personnes qui vont s'occuper de ces Congos demain. Si on distribue des diplômes comme des petits pains, des personnes qui n'ont rien dans le cerveau, ce sera quoi les Congos demain? C'est ça les grands problèmes, c'est ça les grands dangers. Donc nous, on donne les métiers aux jeunes. Voilà, vous pouvez dessiner si vous avez du talent et tout ça. Mais pour dessiner, voici les normes, voici les normes à suivre pour devenir un grand dessinateur. C'est ce que nous faisons. Et la suite, c'est à eux de voir s'ils vont continuer à s'appliquer ou pas.
Mais pour les jeunes, c'est quoi la bande dessinée? Ça les aide comment et en quoi?
Déjà, nous, quand on a lu les bandes dessinées occidentales qui sont tombées ici, ça ouvre l'esprit. C'est une fenêtre à travers laquelle on voit ce qui se passe dans le monde aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de thèmes exploités de différentes manières. Ça ouvre l'esprit.
Ça aide à développer la culture.
Tout à fait aussi. Bon, nous, on les fait aujourd'hui parce que c'est un métier aussi. Il y a beaucoup, il y a un métier qui ouvre à plusieurs horizons. Soit, si on est fort en écriture, on est fort en imagination, on peut devenir scénariste, c'est-à-dire on peut proposer des récits aux dessinateurs, mais ces récits-là ne s'écrivent pas aussi n'importe comment. Il y a des normes, il faut apprendre maintenant et comment écrire un scénario, et des bandes dessinées, un scénario qui tienne la route. Du coup, j'ai dit, cette année, au mois de juillet, si tout va bien, on va faire venir un formateur ici qui va nous enseigner à écrire un scénario de bandes dessinées. C'est ouvert aux journalistes, c'est ouvert aux historiens, c'est ouvert aux dessinateurs, c'est ouvert à toute personne qui aime l'écriture. C'est pas fermé. Ils peuvent venir participer gratuitement à notre siège. C'est vraiment du... On dit que les Congolais ne lisent pas. Moi, je dis que c'est pas tout à fait ça, parce que pourquoi nous on fait la bande dessinée si en face de nous il n'y a pas de lecteurs?
Oui, puisque et déjà, c'est un cercle restreint où vous déposez vos bandes dessinées, comme vous l'avez dit. Ça veut dire que vous n'atteignez pas un grand nombre de personnes.
J'ai dit, nous sommes en train de recréer ce marché-là du livre. Vu que on a encouragé la vente des journaux en photocopie, nous, on ne veut pas nous créer là-dedans. Nous sommes en train de recréer ces marchés et on va s'élargir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous sommes sûrs que nous allons finir par arriver à créer un grand marché.
Ça sera une bonne chose pour la jeunesse.
En face de nous, il y a un lectorat. Sinon, on aurait arrêté de dessiner. On aurait arrêté de publier. Et qu'aujourd'hui, moi, j'aille plus loin pour faire un album cartonné, qualifié des fois de production de luxe, c'est parce qu'il y a un besoin, il y a une demande. Mais seulement, les gens n'ont pas cette lecture-là en face d'eux, ils ne savent pas où trouver cette lecture. D'où je dis souvent, les médias doivent nous accompagner, nous soutenir, parce que nous faisons une part, et les médias aussi doivent faire en sorte que ce soit connu, qu'à tel endroit on fait telle chose pour tel public et tout ça, quoi.
Voilà, c'est une occasion pour vous aujourd'hui, Assimba Bati, vos bandes dessinées. On les retrouve où?
Nous avons un siège à Bandal, dans la commune de Bandalungwa, rue Kisantu, numéro 8. C'est derrière la maison communale de Bandalungwa. Vous venez là-bas, vous demandez qui est Nabel. C'est un peu connu dans le quartier, parce qu'on fait beaucoup d'activités là-bas, et avec la jeunesse, et avec les écoles des...
Mais là, c'est pour Kinshasa, parce qu'en province aussi, ils peuvent se procurer toutes ces publications.
Bon, moi, j'ai été dernièrement à Bukavu. S'ils vont à l'Alliance franco-congolaise de Bukavu, j'ai déposé beaucoup d'exemplaires là-bas. Je crois qu'à Kisangani aussi, à l'Alliance française, il y a des exemplaires à Kisangani. À Lubumbashi, ils peuvent avoir ça au centre français de Lubumbashi. Bientôt, je crois, c'est Wallonie-Bruxelles aussi, qui est le pâté à Lubumbashi. Il y aura des exemplaires là-bas. En attendant, d'aller à Bandundu, à Mbandaka et des Kasai, dans les Bas-Congo, j'ai été là-bas. Et ceux qui sont à Mwanda, au centre culturel Perenco, j'ai déposé des exemplaires là-bas, à Mwanda. Donc voilà quoi, on essaye de nous l'élargir petit à petit.
Vous les vendez à quel prix? Tout le monde peut s'acheter facilement
si quelqu'un met la main dans la poche, ils sont 1000 francs. Et pour prendre un magazine de Kill Label, c'est pas la mer à boire. Hein. C'est question de volonté.
Et dans ce magazine, Kill Label, c'est plusieurs histoires que vous racontez.
Oui, à chaque édition, il y a au moins 6 histoires et dessinées relatées par 6 auteurs différents, avec des styles différents, des bons dessinateurs, ça c'est clair. Et il y a des histoires qui sont déclinées en français et d'autres en lingala, parce que ce sont les langues parlées au pays.
Il y a aussi le swahili et les tchouluba.
Bon, la tradition à ces moments-là, si on trouve pignon en province, dans le Kasaï, par exemple au Katanga, on peut décliner en swahili, dans le Kasaï, on peut décliner en tchouluba. S'il y a des gens qui veulent faire la tradition, qui on travaille à cofinancement, ils disent, voilà, vous faites une édition français lingala pour les Kinshasa, nous on fait une édition tchouluba pour les Kasaï. En coédition, on peut le faire. Il y a déjà qui disent non, nous on veut prendre les mêmes magazines, mais pour Lubumbashi, en tradition en swahili, on les fait en coédition, c'est pas un problème. Donc c'est un appel qui soit été lancé. Maintenant, à ceux qui sont à l'est, Bukavu, Goma et Lubumbashi, Kisangani, s'ils veulent la tradition en swahili, nous on n'est pas fermés. Ceux qui sont dans le Kasaï, s'ils veulent la tradition en Tiluba, on n'est pas fermés. Dans les Bakongo, dans les Bandundu, s'il y a des gens qui veulent faire la tradition en Munukutuba, on n'est pas fermé.
Alors est là, c'est un appel aussi que vous lancez aux promoteurs des écoles, qui sont dans les provinces. Oui. À pouvoir vous contacter s'ils sont intéressés, justement. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'initier les élèves à la lecture.
Oui, on a fait un constat en faisant la ronde dans les écoles. Les cours de dessin a disparu dans les écoles aujourd'hui. Or, dès le cycle maternel, ça stimule les cerveaux, ça stimule l'intelligence. Les enfants en maternelle, pour dessiner des formes, c'est déjà quelque chose. À un moment, essayer de jouer avec les couleurs. C'est déjà un premier pas dans la lecture. Faire la différence entre les couleurs, c'est jaune, c'est rouge, c'est bleu, c'est pas ça, c'est ça. C'est déjà la lecture, c'est déjà l'ouverture de l'esprit. Et au niveau des primaires aussi, on va un peu plus loin. Le coup des dessins a disparu dans les écoles. Les quelques écoles que nous avons visitées, on a essayé, on dépose d'abord les magazines, et les temps que les élèves achètent, lisent et comprennent. Nous, quand on arrive, c'est la récitation d'abord des récits et puis un débat autour de ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, comment ils voudraient qu'on fasse par la suite. Et après, on fait un cours de dessin en public avec les élèves. On a vu plusieurs fois, même les instituteurs, ils prenaient un cahier, ils notaient, ils dessinaient avec nous. On avait mis un grand tableau au centre. Finalement, ils disent, il faut revenir souvent parce que c'est bien ce que vous avez fait. Nous, les cours de dessin a disparu. Nous, on veut apprendre. On a fait plusieurs écoles à Bandal. Comment se fait-il que les cours de dessin disparaissent dans les écoles, on n'en parle pas et on ne fait même pas attention? C'est grave.
Voilà, c'est grave. Le temps passe très, très vite. Assim Babati, petite dernière question avant de nous séparer. En 30 ans de carrière, qu'est-ce que ce métier ou la BD vous a apporté de plus dans la vie?
Le plaisir de dessiner, le plaisir de sillonner le monde, de croiser des grands dessinateurs du monde à travers les festivals. Le plaisir d'être invité un peu partout comme conférencier, le plaisir d'être invité en dehors de mon pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, comme formateur dans le domaine de la bande dessinée, moi qui suis un artiste autodidacte, ça me fait plaisir sans que ça me gonfle la tête. Le plaisir de voir qu'au fil des publications, je m'améliore. Le plaisir de voir qu'à un moment, je suis considéré parmi les dessinateurs, les grands que je croise dans des festivals. Ça fait du bien pour le Congo, ça fait du bien pour moi et ça me pousse encore à former les jeunes pour qu'ils défendent toujours les couleurs du Congo. Voilà.
Merci beaucoup, Assim Babati.
C'est moi qui dis merci pour l'invitation.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Assim Babati. Il est écrivain, dessinateur, scénariste et créateur des revues de bande dessinée. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique, au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.